Il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Le pari gagnant de la France insoumise, le déferlement d'hier contre la politique sociale d'Emmanuel Macron a bien eu lieu. À Paris, Jean-Luc Mélenchon s'affirme comme leader de l'opposition à gauche et prône l'unité derrière les syndicats. La droite, grande favorite pour garder la majorité au Sénat, la moitié de la chambre haute du Parlement est renouvelée ce dimanche par plus de 76 000 grands électeurs. Un parachutiste français tué au combat en zone irako-syrienne, alors qu'officiellement nos soldats engagés contre Daesh ne sont pas censés combattre au sol. Explication dans ce journal avec Christian Chesneau. Avec Mathilde Imberti, nous ferons la connaissance de Luigi Di Maio, désigné tête de file du parti populiste 5 étoiles en Italie pour les prochaines législatives. Le candidat au poste de chef du gouvernement a 31 ans et un profil plus consensuel que celui de Beppe Grillo. Enfin, Madrid et Mariano Rajoy qui poursuit sa politique de sape du référendum d'indépendance en Catalogne prévu dimanche prochain. Jean-Luc Mélenchon se prend déjà à rêver d'un million de personnes réunies sur les Champs-Élysées. Le leader de la France insoumise a en tout cas réussi son pari hier en rassemblant des dizaines de milliers de personnes à Paris contre ce qu'il qualifie de coup d'état social d'Emmanuel Macron. 150 000 manifestants à Paris selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Mais ce qu'on retient, Sophie Delpont, c'est surtout un début d'unité qui se dessine à gauche, le temps d'un cortège.
Les forces de gauche réunies dans la rue, le temps d'une marche d'opposition sous la bannière de la France insoumise. Mais dans son discours, c'est toujours au peuple et rien qu'au peuple que Jean-Luc Mélenchon s'adresse.
Allez les gens, au bout du mouvement social, au bout de la rue, souvent, il y a les élections.
Un peu plus tôt dans le cortège, il salue Benoît Hamon. L'ancien candidat à l'élection présidentielle cite le poète Louis Aragon.
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe aux vieilles querelles. Et il y a un combat commun qui est celui contre les ordonnances travail.
Malgré des relations très tendues avec la France insoumise, Pierre Laurent, le numéro 1 du Parti communiste qui avait annoncé la présence d'une simple délégation du PCF, vient finalement saluer le carré de tête.
Je pense qu'il y a un mouvement important qui est en train de se dessiner d'opposition sociale à Emmanuel Macron. Ce qui nous importe, c'est de le rendre le plus ample, le plus uni et le plus fort possible.
L'eurodéputé socialiste Emmanuel Morel est le seul élu de son parti en tête de cortège.
On mène des combats communs contre le CETA, contre la loi travail, contre les réformes fiscales en faveur des riches. Donc ma place, elle est toute naturelle. J'ai l'impression de trahir personne, au contraire.
Les feignants sont dans la rue.
Depuis le trottoir, Philippe Poutou du NPA interpelle Jean-Luc Mélenchon pour qu'il coordonne les forces de gauche.
Ben si, toi tu peux impulser quelque chose, tu peux lancer les trucs.
Mais je vais essayer, toujours bien doser.
À un moment donné, il faut doser à fond, quoi.
Bah ouais, mais bon. Et après, je vais pas vous envoyer tous dans le mur non plus. Hein.
Le prochain objectif, c'est de réunir, pourquoi pas, un million de personnes sur les Champs-Élysées, lance Jean-Luc Mélenchon, qui espère pour cela convaincre la CGT d'organiser une marche commune après le retour du texte des ordonnances à l'Assemblée nationale.
Retour prévu au mois de novembre. D'ici là, rappelle Jean-Luc Mélenchon, les ordonnances publiées hier au journal officiel n'ont pas force de loi. Elles doivent être combattues dans la rue. La politique ce dimanche, c'est aussi ce scrutin sénatorial qui appelle aux urnes. Le vote est obligatoire. Plus de 76 000 grands électeurs, principalement des élus des collectivités locales. Il y a 171 sièges à renouveler, soit la moitié du Sénat. La droite en détient déjà 142. Elle devrait sans surprise conserver sa domination sur la chambre haute, Yael Gauze.
Garder le Sénat pour engager la reconquête, c'est l'objectif de l'état-major LR. Si on reste majoritaire, explique un proche de Laurent Wauquiez, on pourra lancer un avertissement à Emmanuel Macron et dire que nous sommes la première force d'opposition. Une droite qui se dit prudemment optimiste, pour reprendre l'expression du président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Il y a de quoi, puisque les grands électeurs appelés aux urnes sont pour la plupart issus de la vague bleue des élections locales de 2014 et 2015. Et puis la magie Macron est passée, estime le député LR Éric Woerth. Les Républicains font le pari que les élus locaux, et notamment ruraux, ont été refroidis par les dernières annonces du gouvernement. Baisse des subventions aux collectivités, réforme de la taxe d'habitation, réduction des emplois aidés. Seul inconnu, la constitution d'un groupe autonome, dissident des LR, les constructifs comme à l'Assemblée, car il suffit de 10 élus pour faire un groupe au Sénat. En cas de victoire, Gérard Larcher a fixé le cap, un Sénat contre-pouvoir à Emmanuel Macron, notamment sur sa réforme des institutions.
Yaël Gauze pour France Culture. L'Élysée qui confirmait dans la soirée d'hier la mort en Syrie d'un adjudant appartenant au 13e régiment des dragons parachutistes. Un soldat français tué au combat. C'est une première depuis le début de l'opération Chamal qui engage nos forces spéciales en Syrie et en Irak. Et voilà qui confirme surtout que des soldats français participent à des combats au sol dans la lutte contre Daesh. Explication avec Christian Chesneau.
On sait que des forces spéciales françaises ont été dépêchées au sol pour épauler les combattants kurdes syriens depuis le lancement de l'opération Chamal en septembre 2014. Leur rôle est de les former, de les aider à localiser des cibles ennemies et d'assurer la coordination avec les avions Mirage et Rafale positionnés dans le désert de Jordanie et sur la base d'Abu Dhabi. La mort de cet adjudant parachutiste montre que les soldats français ne font pas simplement de l'encadrement et du renseignement, mais combattent en première ligne aux côtés des unités kurdes. L'Élysée n'indique pas où est tombé le soldat français ni dans quelles circonstances, mais sa mort intervient au moment où Raqqa, la capitale syrienne des djihadistes, est sur le point de tomber. Daesh ne contrôle plus que quelques poches dans la ville et comme à Mossoul, les combats pour conquérir les derniers kilomètres carrés où sont retranchés les djihadistes sont souvent les plus durs à mener.
Christian Chesneau et hier soir Emmanuel Macron qui saluait, je cite, le sacrifice de ce soldat tué dans l'accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays, la protection de nos concitoyens et la lutte contre la barbarie. Fin de citation donc du chef de l'État. Les bureaux de vote ont ouvert il y a maintenant une heure en Allemagne. Scrutin législatif qui devrait voir la chancelière Angela Merkel reconduite pour un quatrième mandat. Son parti conservateur, la CDU, est largement en tête des intentions de vote, mais l'inconnu de ces élections fédérales, c'est le score du parti nationaliste et islamophobe, l'AfD, crédité de 13% dans les sondages. Il devrait faire son entrée au Bundestag, une première pour une formation d'extrême droite allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. Les législatives en Italie, ce sera au printemps prochain, mais les forces politiques là-bas se mettent déjà en ordre de bataille. Hier, c'est le parti populiste 5 étoiles, donné favori dans les sondages, qui désignait son chef de file. Et c'est le jeune Luigi Di Maio, 31 ans, qui a remporté cette primaire, adoubé en personne par le fondateur et leader incontesté de 5 étoiles, l'humoriste Beppe Grillo. Un reportage à Rimini de Mathilde Amberti.
C'est un Beppe Grillo déchaîné sur scène qui annonce le résultat des primaires aux militants 5 étoiles. Luigi Di Maio, sans surprise, les autres candidats étaient inconnus, portera les couleurs du mouvement antisystème aux législatives.
L'Italia deve scegliere.
Maintenant, l'Italie doit choisir. Soit elle continue à survivre, soit elle commence à vivre. Si elle veut vivre, elle doit choisir les 5 étoiles. Je vous promets que nous constituerons une équipe gouvernementale dont vous pourrez être fier pour la première fois dans l'histoire de l'Italie.
Di Maio, 31 ans seulement, député, succédera aussi à Beppe Grillo comme chef politique du mouvement. Les 5 étoiles se lancent à l'assaut du gouvernement avec un programme qui reste dans le détail à déterminer. Le revenu minimum devrait y figurer et peut-être l'organisation d'un référendum sur la sortie de l'euro. Les militants donneront leur avis sur la plateforme numérique du mouvement. Selon le principe des 5 étoiles, tout le monde a voix au chapitre.
En Espagne, c'est la semaine de tous les dangers qui débute dimanche prochain, 1er octobre. La Catalogne va tenir son référendum d'indépendance contre l'avis, on le sait, de Madrid qui met tout en œuvre pour l'en empêcher. Les dirigeants catalans ne cèdent de rien pour le moment et le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy non plus. Hier, depuis Palma de Mallorca, il a réaffirmé que selon lui, le référendum catalan n'aura pas lieu. Marie-Hélène Ballesteros.
Il n'y aura pas de référendum, a répété une fois de plus Rajoy, car aucune démocratie au monde ne peut accepter que l'on détruise sa constitution et sa souveraineté nationale. Pour Rajoy, le gouvernement catalan est responsable de la situation actuelle et de la tension croissante en Catalogne. Le plus judicieux, le plus raisonnable et le plus démocratique aujourd'hui serait d'arrêter, a-t-il ajouté. Selon Rajoy, les hommes politiques radicaux catalans se rendent ridicules actuellement et créent une tension inutile en faisant beaucoup de mal à l'Espagne et à la Catalogne. Il a dénoncé également les pressions subies par les forces de sécurité de l'État, par les maires et les médias qui ne partagent pas les idées indépendantistes, mais aussi la manipulation, y compris des enfants, et le mépris de la loi. Et c'est justement afin de faire respecter la loi et d'empêcher la tenue du référendum que le gouvernement central a adopté hier une nouvelle mesure. Un haut représentant du ministère de l'Intérieur espagnol va désormais coordonner toutes les forces de sécurité en Catalogne, y compris los Mossos d'Esquadra, c'est-à-dire la police entreprise catalane qui était jusqu'à présent sous le contrôle du ministère de l'Intérieur du gouvernement régional catalan. Son responsable Joaquim Forn a immédiatement dénoncé cet acte qu'il considère inacceptable.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid. La météo, enfin, c'est un semblant d'été indien, c'est vrai, avec ce matin, après lever des brouillards matinaux, le soleil qui va briller partout, la douceur qui va s'installer. Et puis tout de même quelques pluies dès la fin de matinée sur la pointe bretonne, un temps estival sur le sud-ouest et le Languedoc, où l'on attend des températures maximales de 27 à 29 degrés. Ailleurs, on est partout au-dessus des 20 degrés, à l'exception tout de même des côtes de la Manche.